Le retour de Courchaine.
Malgré tous nos efforts, cette émission pourrait contenir du contenu. On tient à s'en excuser.
95.7 Kick Saguenay.
Quel excellent thème que celui de la série The Crown sur Netflix que je vous recommande personnellement. On est rendu à la saison 3, Alexandra?
Oui, la saison 3 est sortie. Là, on est en attente de la saison 4 parce qu'on aura l'apparition d'un personnage qui est très, très, très attendu.
Voilà, celui de Lady Di.
Voilà.
Et depuis que j'ai consommé cette série-là, avant, là, je te dis, là, tous les articles concernant la monarchie, ça m'intéressait pas. Quand je voyais ça au téléjournal, je changeais de poste. Je trouvais donc ça insignifiant. Mais après avoir écouté la série, on le voit sur un tout autre angle.
Ouais, oui.
Et écoute, on devient rapidement passionné de ce sujet.
Ben moi, j'ai toujours aimé la monarchie. J'ai toujours eu une certaine
fascination.
Ouais, curiosité, ouais. Fascination. J'ai bien aimé regarder les mariages quand il y en avait ou peu importe.
Ouais.
Mais avec la série The Crown, ça m'a encore plus rendu accro à tout ce qui se passe. Et il faut dire que nous, Richard, on est chanceux. Ben, quand t'es fan de monarchie, évidemment, on est chanceux parce qu'on vit à une époque où on va vivre le couronnement d'un nouveau roi.
Oui. C'est
on va vivre ça, le changement de la monnaie aussi. Tout va se transformer. Le visage de la reine va s'effacer pour laisser place à un roi.
Exactement. Est-ce que ce sera Charles ou William?
Ouais.
Après Charles, c'est William?
Oui, parce que son fils, c'est William.
OK. Bon, on va aller en discuter avec quelqu'un qui est passionné de monarchie. Puis je fais juste la précision, je ne vais pas y mettre de pression. Ce n'est pas une spécialiste. Elle n'a pas fait une maîtrise là, en monarchie. Là. Elle n'est pas monarchiste, mais elle s'intéresse. Puis c'est notre patronne, Brigitte. Elle dit, hey, il faut que vous appeliez Isabelle Lacasse. Isabelle Lacasse, vous l'avez entendue sur nos ondes l'été passé. Elle a animé une des 142 émissions qu'on a eues dans l'avant-midi au cours des deux dernières années. Bonjour Isabelle Lacasse.
Allô, salut.
Alors, ça a été quoi le déclic pour toi, pour devenir une passionnée de la monarchie britannique? Ça remonte à quand?
Ah, mais ça fait longtemps que je suis ça. Puis d'ailleurs, je la salue, votre patronne Brigitte, avec qui j'ai déjà travaillé, parce qu'elle m'a souvent entendu dire « Non, mais il se passe telle affaire, puis t'as-tu telle nouvelle? » Puis moi, je me levais la nuit pour regarder des fois des affaires, puis je manquais pas effectivement le mariage de Kate, par exemple, et William en 2011. Mais, tu sais, si on me demandait, dans le sens, parce qu'il est... Les gens sont pour ou contre la famille royale et tout. J'ai pas tant d'opinion par rapport à ça. C'est vrai qu'on leur donne finalement, parce qu'on fait partie du Commonwealth, beaucoup d'argent, etc. Mais moi, c'est plus, un peu comme Alexandra, c'est plus la fascination de voir tout le protocole qui vient avec ça, toutes ces vies rangées que je ne voudrais jamais vivre. Je voudrais jamais vivre ce genre de vie-là, mais il y a quelque chose qui me fascine là-dedans. Depuis, je suis pas capable de mettre une date, mais ça fait vraiment trop longtemps.
C'est bon. Hey, là, on a appris hier que le prince Harry et son épouse Meghan ont décidé de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale. Pour les non-initiés, ça veut dire quoi? C'est comment ça, un rôle de premier plan, là?
Bien, c'est-à-dire que quand tu deviens un membre de la famille royale, un peu comme... Parce que là, on jette beaucoup le blâme sur Meghan depuis l'annonce là, d'hier, comme quoi elle veut finalement sortir Harry de ses rôles plus justement protocolaires. Mais ça veut dire que être un membre senior, c'est que tu as ce qu'on appelle en anglais le sovereign grant, l'allocation royale. Cette allocation royale-là, elle est versée à la reine pour payer, mettons, ses fonctions de représentation, mais aussi celle de les membres de sa famille, les employés. C'est aussi utilisé, par exemple, pour l'entretien du palais de Buckingham. On dit que c'est environ 82 millions de livres par année. Là, comment c'est calculé? Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est calculé, là, écoutez, je ne vais pas vous faire un cours de maths ici, là, mais à partir des revenus qui sont tirés, finalement, de la gestion du patrimoine de la couronne britannique. Ça, c'est à peu près 5 % du salaire, je vais dire ça comme ça, que Meghan et Harry peuvent toucher dans une année. Donc, ils laisseraient tomber seulement 5 % pour l'instant, ce qu'on en sait, de l'argent qu'ils pourraient toucher à chaque année.
Et là, ils disent vouloir travailler pour devenir financièrement indépendants.
C'est quoi ça?
Ils vont se lancer un restaurant, le roi, le duc de la patate?
Bien, c'est parce que je pense que Meghan a peut-être envie d'être encore comédienne. Ça vient peut-être de ça. Là, je lisais plein d'articles. Il y a des gens qui disaient « Hey, devenir financièrement indépendant, combien auront-ils d'argent pour un de leurs premiers posts Instagram en tant qu'ex-membre de la famille royale? » Parce que c'est ça aussi, quand tu deviens membre de la famille royale, tu ne peux pas travailler. Vous le savez, vous aviez vu The Crown, là. Moi, je fais comme un petit parallèle avec, si vous avez vu la saison 3, la sœur de la défunte sœur de la reine actuelle, Margaret, elle aurait voulu travailler. Elle trouvait ça long. Ça doit être long, effectivement. Oui, il y a des œuvres caritatives et tout, mais c'est pas tant. Ça les occupe pas 365 jours par année. Et donc, il y a peut-être de ça, je pense, chez Meghan, qu'elle a envie d'être encore la comédienne qu'elle était.
OK. On parle de lancer aussi une fondation caritative. Ça, c'est important pour la monarchie britannique?
C'est important pour la monarchie britannique. Je pense que c'est important pour le couple. Moi, ce qui me fait sourire dans tout ça, là, c'est que dès qu'ils ont fait leur annonce, finalement, hier, ils ont mis tout de suite en ligne. Imaginez comment ils ont travaillé sans rien dire à plein de gens dans la famille royale. Ça ferait un épisode exceptionnel de The Crown. Mais ils ont mis en ligne leur site Internet qui s'appelle sussexroyal.com, où, évidemment que je suis allée voir le site Internet, et là, on parle, le premier onglet, c'est qu'on parle de ces organisations caritatives, et là, il y en a pour tous les goûts, mais ils disent, on va vous donner des nouvelles dans les prochaines semaines, à savoir qu'est-ce qu'on va vraiment faire, parce que le veut pas, ils veulent aller vivre en Amérique du Nord, alors ça veut dire que, ça veut dire qu'ils vont aussi travailler pour des organisations caritatives là-bas, je ne sais pas trop. Là. Il nous manque des réponses à nos questions.
Ouais. Est-ce qu'il serait possible que la famille royale vienne habiter, ben pas la famille royale, mais donc Meghan et Harry viennent habiter au Canada? Parce que je pense que Meghan a habité longtemps à Toronto.
Oui, exactement. Ben, écoutez, il y a Jessica Mulroney qui est une amie de Meghan qui a justement tweeté un petit mot pour dire que c'était une femme de tête et qu'elle était donc heureuse de la décision de Meghan et de Harry. Ils ont passé leur temps des fêtes en Colombie-Britannique, mais en même temps, c'est une Américaine. Elle a peut-être... Il y a d'autres gens qui disent, que là, je lisais toujours sur Twitter, vous avez vu, j'ai fouiné pas mal depuis hier, mais qui disent qu'elle aurait recontacté des gens à Los Angeles pour voir peut-être ce qu'il en était pour elle, peut-être comme comédienne. Je ne sais pas.
Je le disais en introduction, on va vivre vraiment une page d'histoire, autant ici au Canada, mais que dans l'ensemble du monde, parce qu'on va vivre le couronnement d'un nouveau roi. Je vais dire d'ici, mettons, les 10 prochaines années, si la reine se porte encore bien. Là. Et je me demandais, selon toi, est-ce que Charles, le fils de la reine, va prendre la couronne ou est-ce que tu penses qu'il va la laisser à son fils William, que tout le monde attend donc de voir sur le trône?
Il y a beaucoup de spécialistes de la monarchie, justement au Royaume-Uni, qui prédisent ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que Charles laisserait probablement sa place à William. En même temps, ça fait longtemps qu'il attend, il a 71 ans, faut-il le rappeler? Hein? Peut-être qu'il se dit, ben si je peux faire 10 ans, peut-être que ça va me tenter, mais en même temps, il connaît les rouages aussi. Il a fait sa vie autrement, dans le sens qu'il a fait sa vie en parallèle, toujours dans cette... Je suis pas sûre qu'il a attendu toute sa vie pour accéder au trône. Oui, il s'est peut-être fait une idée, là, il y a déjà de nombreuses années de ça. Mais il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que Charles va laisser sa place pour William. Alors, je sais pas. Parce que William, il rentre plus dans le protocole. En tout cas, William et Kate, pour l'instant, suivent bien ce qu'on leur demande de faire aussi. Par rapport, si on fait des comparaisons entre Harry et Meghan, qui ont moins envie, visiblement.
Est-ce que c'est une gifle à la reine Elizabeth, ce qui s'est passé? Parce qu'elle a eu une année quand même relativement difficile. Hein? Il y a eu, entre autres, là, le prince Andrew, là, qui a été relié à l'affaire du pédophile américain Jeffrey Epstein. Ouais. Le mari de la reine a fait un accident cette année. On dirait qu'elle avait comme pas besoin de ça là, en début d'année 2020.
Non, puis justement, hier, elle a juste dit rapidement que c'était des « complicated issues ». Ça a été son terme qui a été repris maintes et maintes fois pour dire que c'était peut-être une situation, d'abord qu'elle n'attendait pas, puis qu'elle avait peut-être pas envie de régler en ce début d'année. Mais là, la famille royale vient juste d'émettre un communiqué il y a à peine quelques minutes où on dit que la reine, le prince Charles et William veulent travailler ensemble avec Meghan et Harry pour trouver des solutions dans les prochains jours et non pas dans les prochaines semaines. Ils veulent mettre un plan, veulent travailler aussi en collaboration, et je ne sais pas pourquoi, mais en collaboration avec le gouvernement pour essayer de trouver des solutions. Parce que là, il y a beaucoup de questions qui se posent, comme par exemple, c'est un détail, vous allez me dire, mais c'est un détail quand même important quand on scrute à la loupe tout l'argent qui est injecté dans la famille royale. Mais pour l'instant, Harry et Meghan ont 6 gardes du corps à temps plein. Hein? Ces gardes du corps-là les ont suivis. Oui, les ont suivis pour leurs 6 semaines, justement, au Canada, là, pendant le temps des fêtes. Et là, ils ont été relayés parce que ces gens-là ont des familles. Donc, on reprend l'avion, on renvoie un garde du corps qui est là. Est-ce qu'ils vont garder des gardes du corps, par exemple, lorsqu'ils vont vivre la moitié de l'année en Amérique du Nord? C'est une question à se poser. Ça coûte plus cher, là. C'est sûr que ça coûte plus cher rendu là. Alors, il y a des questions comme ça où on n'a pas de réponse encore.
Isabelle, tu sais, hier, on demandait à nos auditeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean à quel endroit on pourrait les cacher pour pas qu'ils soient suivis par les paparazzis. On pense que Saint-André-de-l'Épouvante, où est née Fabienne Larouche, serait le meilleur endroit, mais je pense pas qu'ils vont être à l'abri des paparazzis, peu importe où ils se trouvent sur la planète Terre.
Non, je pense pas. Puis, de toute manière, il y avait déjà des paparazzis dans la vie d'une Meghan Markle avant. Ben, c'était peut-être moins intense, on s'entend, mais avant qu'elle rencontre Harry. Là, on va vouloir encore plus les épier. Il va falloir qu'il y ait une certaine sécurité autour d'eux. Là, c'est pas parce qu'ils décident de ne plus être des membres seniors de la famille royale qu'on va les laisser tranquilles. En tout cas, j'espère que c'est pas ça qu'ils pensent, parce que c'est pas ça qui va arriver, je crois. Bref, il y avait une autre petite nouvelle qui m'a fait sourire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le musée de Madame Tussaud, le musée de cire à Londres.
Oui, oui,
bon,
tout à fait.
Il y a la scène royale. Et on a déjà décidé aujourd'hui qu'on allait retirer Harry et Meghan de cette scène royale. On va les mettre ailleurs dans le musée déjà. On a déjà décidé ça. Ouais.
Isabelle, c'est vraiment fascinant. Au plaisir de se reparler parce que la monarchie britannique, il y a des nouvelles là-dessus à toutes les semaines. Puis ce serait d'ailleurs ma dernière question. Est-ce que la monarchie en 2020 est encore en santé? Est-ce qu'on... Dans 100 ans, elle va encore exister?
Bien, pour être allée à Londres il y a quelques années, j'étais très cynique. Je suis allée beaucoup plus, mettons. Et quand tu vas là-bas, tu te rends compte que ça fait vivre le tourisme énormément. Et il y a comme une fascination dans la ville. On dirait, dans 100 ans, je ne sais pas. Mais pour les 25-30 prochaines années, j'ai l'impression que ça va encore survivre. Lorsque la reine sera plus là, peut-être que le protocole ne sera pas suivi à la lettre. Est-ce qu'on va vivre cette nouvelle ère de famille royale un peu plus ouverte? Pourquoi pas une famille royale où les gens travailleraient? On pourrait aussi changer les règles un petit peu, ce qu'on dirait que la reine ne veut pas changer, mais elle a 93 ans, elle a donné sa vie pour son rôle. Mais il me semble qu'il y aurait moyen de trouver des solutions pour que ça soit, je sais pas, plus moderne, si on veut.
Le pire, c'est qu'après avoir fini la troisième saison de The Crown, j'ai écouté le film qui s'appelle Les deux papes sur Netflix. Puis très, très bon film avec Anthony Hopkins, entre autres. Et je traçais un parallèle entre la monarchie britannique et ce qui se passe au Vatican. On a l'impression que c'est deux organisations qui n'avancent pas très, très vite et qui ne sont pas très, très contemporaines.
Exactement. Parce que si on veut garder une certaine monarchie, est-ce qu'on en a besoin? Je ne crois pas. Mais mettons qu'on voulait garder ça, ben, il faut au moins moderniser certaines choses, il me semble.
Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Ça a été un plaisir. Puis notre patronne, Brigitte, avait raison. Tu maîtrises très bien le sujet.
Je vous salue, tout le monde.
Bye-bye. Isabelle Lacasse, bye. Qu'on a entendu sur nos ondes en remplacement l'été passé, qui travaille maintenant pour ici Radio-Canada. Musique, voilà, je n'ai pas sa plage horaire exacte, mais bon, ça se trouve relativement facilement. Retour de la pause, on va être en mesure de vous diffuser une partie du point de presse de Justin Trudeau.
Il n'est pas encore...
Non, mais je me suis rendu compte que ces conseils... Ben, il arrive, là. Je pense qu'on va être bon pour vous le faire entendre avant le début de la pause, mais il y a comme... c'est la même mise en scène qu'hier. Premièrement, il arbore la barbe. Hein? Oui, il est rendu avec une barbe, Justin Trudeau. Puis on le filme, il arrive, je ne sais pas c'est quel bâtiment sur la colline parlementaire, mais on le filme en train d'arriver dans les rues d'Ottawa, tu sais, puis il y a une marche un peu solennelle. C'est le même modus operandi qu'on avait hier. Puis là, on le voit rentrer dans le bâtisse. Puis on dirait qu'on veut qu'il soit un petit peu plus premier ministrable. Ouais, ouais. Il faut que... Puis ça a l'air que là, suite au conseil de Fred Gagné aussi, il va arrêter de croiser ses jambes quand il parle à Donald Trump.
Oh.